23 février 1998, cours de Ravemann à Montevideo, je suis absent.
Alors, le deuxième verset, hein, c'est ça?
Oui.
Alors, c'est le cinquième chapitre, deuxième verset. Ani Yeshena. On va traduire littéralement. Je suis endormi. Du mot Yashen, Yeshon. Ve Libi Er. Libi. Et mon cœur. Er. Est éveillé. Kol Dodi Dofek. Alors attention, col, la voix, Dodi, mon ami, Dofek, frappe. Donc col, c'est dans le sens écouter. Pitrili, ouvre-moi, Achoti. Ma sœur, Rahayati, ma compagne, Yonati, ma colombe, Tamati, et c'est la chambre Tam, Tamim, celle qui est entière, Shiroshi, car ma tête, Nimla Tal, est remplie de rosée, que vous tsotaï mes boucles, Recissez Laïla, c'est du brouillard de la nuit. Voilà le verset. Alors ici, évidemment, puisque ça commence au féminin, Ani Yeshena Velivier, il s'agit du peuple juif qui s'adresse à Kadosh-Bor. Alors on va expliquer la première partie du verset. Ani Yeshena Velibi Er. Ce qui voudrait dire, malgré le fait que je sois endormi, Libi Er, mon cœur est réveillé. Alors c'est difficile à comprendre. Parce que ça, normalement, c'est la réponse de celui qui fait rien. Il dit, j'ai les bonnes intentions. Bien que je fasse pas grand chose. Alors on va essayer de comprendre, parce que le Midrash donne beaucoup d'exemples. Amra Knesset Israël, il fait un Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Midrash. Le peuple juif a dit devant Kadosh Baruch Hu. Ami Yeshena mina mitzvot, veli bi er ligmilut chasavim. Alors attention. Ami Yeshena mina mitzvot. Je suis endormi des mitzvot. C'est-à-dire, je ne fais pas grand-chose. Mais Libi, mon cœur, Er, est réveillé. Ligmi le trasadim, pour faire du bien vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire que dans les mitzvot, je ne suis pas fort. Mais ça n'empêche pas que Libi, Er, les gamins ont traçonné. On va voir déjà un deuxième exemple. Ani Yeshena Minat Sedakot Venibi Er La Asota. Je ne peux pas donner, je n'ai pas les moyens. Mais Libi Er La Asota, je voudrais bien le faire. Troisième exemple. Ani Yeshena Mina Korbanot. Les sacrifices, le culte, le service du temple. Ani Yeshena, c'est-à-dire on ne peut pas le faire. Mais Libi Er, Likri Hatshema, Velit Fila. Mon cœur est Er, il aspire, il est réveillé, à Kri Hatshema et à la Tfila. Comme s'il y avait un remplacement. Alors il faut faire bien attention. Il y a deux possibilités de comprendre ce verset. La première possibilité de comprendre le verset, c'est de dire, il y a des cas où je ne peux pas faire. Et on croirait que je ne participe pas à ce à quoi je dois participer. Mais c'est parce que c'est impossible. En vérité, Libière, je voudrais bien le faire. Alors si c'est comme ça, ça voudrait dire que dans le cas d'une impossibilité, on doit juger les intentions de la personne. Seulement c'est pas vraiment vrai, parce que sinon on ne comprend pas tous les autres exemples. Parce que Midrash dit, Ani Yeshena Mina Mitzvot. Les mitzvot, je ne les accomplis peut-être pas. Mais Libi Er, les Gmilut Rasadim. Ça voudrait dire, j'accomplis les Gmilut Rasadim. Mais si tu les accomplis, alors pourquoi c'est en tant que Libi Er, mon cœur est éveillé. Il y a des choses que je fais, des choses que je ne fais pas. Donc tu ne les fais pas non plus. Si tu ne les fais pas non plus, alors tu n'as qu'à dire Libi Er, la mitzvot, je ne les fais pas, mais mon cœur est éveillé à la mitzvot. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Libi Er. Et après, peut-être quand on arrivera à comprendre. Libi Er, si on le traduit. J'ai le désir de, je voudrais bien que je suis ouvert à ça. En quoi ça constitue une démarche? Alors on a toujours l'habitude de dire que je veux ou que j'aime ou que je sais ou que... On ne peut pas mettre l'adjectif « je ». Parce que le fait de savoir, ça ne veut pas dire que c'est ton savoir. Le fait d'aimer, c'est toi qui aimes. Tu as pris l'idée d'autre part, tu as pris le sentiment d'autre part, et comme tu ne le mets pas en pratique, il n'a pas de rapport avec ta personne. On peut exprimer des sentiments qui n'ont aucun rapport avec nous. Si on sait les mettre en pratique, alors c'est les nôtres. On peut exprimer des connaissances qui n'ont rien à voir avec nous. Je peux relater ce qu'un livre a dit à l'article du journal. Je peux venir ce soir, je peux vous dire que Clinton a dit qu'il a prouvé l'accord entre l'ONU et les Irakiens, ça va avec moi. On peut dire des choses, mais elles n'ont rien à voir avec la personne. Je peux véhiculer des sentiments, je peux véhiculer des idées. À partir de quel moment elles m'appartiennent? À partir du moment où je sais les mettre en pratique, où j'ai sacrifié quelque chose pour le faire. J'ai donné. Mais il y a encore quelque chose d'autre que ça. Et on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ou à certaines époques, ou dans certaines conditions, il y a des choses auxquelles je suis éveillé, il y a des choses auxquelles je ne suis pas éveillé. On va donner l'exemple. Il est interdit, d'après la Torah, pour un juge d'écouter la revendication d'une personne avant l'autre. Si j'ai entendu les revendications d'une personne, je ne peux plus être juge. Plus grave encore, si j'ai pris ce qu'on appelle le shohad, c'est-à-dire que j'ai un intérêt quelque part, je ne peux pas être juge non plus. Pourquoi ? Je peux très bien dire que mon intérêt est là, mais je reste lucide. Pourquoi est-ce que la Torah elle juge ça impossible ? Ça, c'est la première question. On va poser une deuxième question. Il y a dans la Torah un principe qu'on appelle Hakarat HaTov. Hakarat HaTov, ça veut dire savoir reconnaître le bien qu'on vous a fait. Ça va au point qu'il est écrit dans le Midrash que lorsque Akadosh Baruch Hu est apparu à Moshe Rabbeinu, lui a dit de délivrer le peuple juif d'Égypte, il a dit qu'il doit demander à son beau-père, Yitro. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il était réfugié dans le pays de Midian, c'est lui qui lui avait ouvert sa porte. Et on a un principe, Apoteach, Petach le Chavero, celui qui ouvre une porte à l'autre, Napsho Chayavlo, c'est sa personne elle-même qu'il est redevable à l'autre. Au point qu'il ne se sentait même pas libre d'obéir à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui disait. Donc la Torah dit qu'il est allé demander l'autorisation à Yitro. Ce sentiment d'Hakarat HaTov, c'est un sentiment naturel. Pourquoi ? Un chien, lorsque vous lui donnez à manger, la prochaine fois il vous reconnaît. Comment se fait-il que c'est le sentiment le plus dur ? Pourquoi ? Parce que si vous voulez être sûr de ne plus jamais rencontrer une personne, le mieux c'est de lui faire une grande toba. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne voyez plus. Parce que la Hakarat HaTov, c'est la chose la plus difficile pour une personne. C'est au point difficile qu'on préfère ne plus voir l'autre, plutôt que d'être obligé d'avoir cette relation avec lui de Hakarat HaTov. Merci. On va aller plus loin. La majorité des gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils voient immédiatement tous les inconvénients, tous les problèmes qui existent dans la journée. Pourquoi c'est tellement difficile de dire « Mode Ani le Fanecha ». Finalement, je suis réveillé, j'ai l'occasion, je vis. Pour ça, je suis prêt à tuer la terre entière pour vivre moi. Si je suis menacé, je trouve légitime que ma vie justifie même des centaines et des milliers de vies. Et pourquoi je ne sais pas naturellement trouver que, tiens, le bon Dieu m'a donné l'occasion. C'est bien, merci. Est-ce que c'est tellement difficile ? Ah, il faut dire ceci. C'est que l'homme est toujours tellement habitué à apprendre et que de donner, c'est quelque chose de tellement exceptionnel que tout ce qu'il prend, il le trouve légitime. Quelqu'un m'a fait une toba. Bon, on va pas en parler 107 ans. Ça y est. C'est normal. S'il ne me la fait pas, ah, il est dégoûtant. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Parce que depuis que je suis petit, on m'habitue à prendre. Ce que nous on a appelé quoi ranutila. On prend. Donner, c'est plus lion. Alors qu'on n'a pas l'habitude de donner, on ne peut pas apprécier ce qui est pour l'autre un don. C'est vrai que je me lève le matin et je me dis, il faut encore vivre cette vie difficile. Mais en vérité, au fond, si on te l'enlevait, tu lutterais d'une façon incroyable pour regarder. Donc tu es content de vivre. Pourquoi ça m'est difficile de me rendre compte de tout ce que le bon Dieu me donne à chaque instant et de me dire que tout ce que je ferai, ça ne pourra jamais rendre ou faire valoir ce qu'il me donne. Parce que c'est difficile d'être toujours dans la position d'une hôtesse. Celui qui ne fait que donner, à peine on lui donne un tout petit truc, il ne sait plus quoi faire pour vous remercier. Mais celui qui ne sait pas donner, il ne sait que prendre, il trouve légitime qu'on lui donne. C'est-à-dire que dans la religion, la relation qui est la plus primaire que l'homme a avec Akadosh Baruch Hu, et ou par conséquent, ou par corollaire, la façon qu'il a de gérer sa vie avec les autres, c'est que ce qu'on me donne, c'est normal, et ce que je donne, c'est exceptionnel. Si on renverse cette situation, et qu'on s'habitue à comprendre que de prendre, ça n'a aucune valeur. Ça ne donne aucune valeur à la personne. Ça n'est que de donner qui prouve son existence. Et qu'on n'existe que par rapport à ce qu'on donne et pas par rapport à ce qu'on prend. À partir de ce moment-là, les valeurs, elles vont être inversées. Et ça va devenir tellement important de recevoir. Parce que l'autre a donné, pas parce que j'ai reçu, c'est pas important ça. Qu'on va être obligé de se mettre à la place de l'autre, et on ne sait plus quoi faire pour le remercier. On est gêné. On va ouvrir une parenthèse. Vous savez que tout... Les gens qu'on appelle ceux qui aident, c'est-à-dire, lorsqu'on a quelqu'un, il faut se faire aider. Ça veut dire, c'est les gens qui triturent, qu'on appelle les psys. Ils vous diront que, même lorsque quelqu'un est grand-père, ou arrière-grand-père, il aura toujours comme souci permanent la relation qu'il a avec ses parents. C'est-à-dire que vous trouvez des gens qui ont l'air bien portants, qui sont à la tête d'une famille, à la tête d'affaires, à la tête de réussite. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs parents. Et pourtant les pauvres parents... On dit ça peine s'ils sucrent les fraises. Donc, comment on en arrive là? C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une vie perturbée à cause d'une relation pareille. C'est bizarre. On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a une Gemara dans le traité de Psachim, la Gemara dit ceci. La Rachaele. Que si je découvre quelqu'un à côté de mon coffre-fort, au moment où je rentre à la maison, et que cette personne savait que je pouvais rentrer à n'importe quelle heure, je n'ai pas besoin d'attendre le coup de feu. J'ai le droit, moi, de la menacer. Et si elle s'en va pas, je tue. C'est un principe qui s'appelle « Abba l'orgra, ashkem l'orgo ». Celui qui va te tuer, tue-le avant. C'est à propos d'un verset dans la Torah, « Im bemarteret imatzi aganav », c'est une souga qu'on appelle « Abba bemarteret ». Ok. Et voilà qu'il y a une contradiction dans la Torah. Une fois dans la Torah, il y a marqué « Si tu as un doute, tu tues ». Une fois marqué « Tant que tu as un doute, tu tues pas ». On a marre de quoi on parle. Une fois comme ça, une fois comme ça. Répond la Gemara, kan be av ala ben, kan be ben ala av. On va essayer de comprendre. Voilà un père qui trouve son fils à côté de son coffre-fort. Il a des doutes. Son fils, il est armé. Il le menace, mais il a des doutes. Est-ce que son fils est capable de le tuer? Là-dessus, la Torah a dit, tu as le moindre doute, tu tues. Mais si tu trouves ton père à côté du coffre-fort, si tu as le moindre doute, tu ne tues pas. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a dit, Av, le père, il est Merachem à la même. Merachem, ça veut dire, hein, il a pitié. Quand de Ben à la Av, il n'est pas Merachem sur son père. Tout celui qui lit ce livre-là, s'il n'est pas habitué aux tortueuses méandres freudiennes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Non seulement ça va bien, mais il n'y a jamais marqué dans la Torah qu'il faut aimer ses parents. C'est quand même bizarre. Il y a marqué « Ish » Avi Vimotiraou. Ira, il faut avoir la crainte. Kabed et Avira Abimecha. Respect. L'agma trouve difficilement la différence entre la crainte et le respect, parce que crainte veut dire respect, et respect veut dire crainte. Ils sont pas d'avoir peur. Ira. Ça veut dire de connaître sa place. Donc une fois l'agma dit c'est dans le positif, ce que tu dois faire pour l'autre, par Kabod. Une fois c'est dans le négatif, ce que tu ne dois pas faire pour l'autre, par kavod aussi. Une fois on appelle ça Yira, une fois on appelle ça kavod. Si son père rentre dans une chambre, il faut se lever, c'est du kavod. Il ne faut pas faire telle et telle chose devant ses parents, c'est de la Yira. On est d'accord? Il n'y a jamais marqué qu'il faut aimer les parents? Non. Trop long, c'est pas marqué. Pire que ça, il y a un Rashi dans la Gemara dans ce cas. Rashi dit que la avelut, le deuil, c'est le kavod qu'on doit aux parents. Mais les pleurer, c'est une affaire personnelle. C'est pas une affaire halakhique. Il y a une halakha que celui qui est troublé, qui a du tsar, il peut pas prier. Rashi dit, il a qu'à être miyatev da'ato. Il a qu'à bien se concentrer et oublier son tsar. On n'est pas obligé de pleurer ses parents. Comment ça dit Rachid? C'est pas halakhique. C'est pas possible. Le principe est très simple. Lorsque je reçois de quelqu'un, je ne l'aime pas pour ça. Je lui dois. Si je comprends tout ce que je lui dois, alors je sens que ma place par rapport à lui, elle est dans une situation faible. Nafsho Khaevlo, je lui dois tout. Mais on n'aime pas les gens qui vous donnent spécialement. Ça n'a pas de rapport avec l'amour. On doit justifier ce qu'on a reçu. Quelque part, on doit être modé. Vous savez qu'en hébreu, le hodot, qui veut dire remercier, et le hodot, qui veut dire avouer, c'est le même mot. Parce que remercier, c'est être d'accord que l'autre vous a donné quelque chose. C'est seulement l'expression de cet aveu, c'est le remerciement. C'est pour ça que c'est le même mot en hébreu. Être d'accord qu'on doit et dire merci, c'est le même mot. Donc le principe, c'est que tu dois être d'accord que tu es redevable. Aimer, c'est autre chose. Tant que tu n'as pas investi dans quelqu'un, tu n'aimes pas. Aimer, c'est seulement le notel qui peut aimer. Mais le notel, il aime que lui. Parce qu'il n'a fait que prendre. Donc il n'a fait que se nourrir. Donc le geste, il est allé vers qui? Vers lui-même. Mais souvent pas vers l'autre. Chaque fois que je prends de l'autre, ça va vers moi. Donc le sujet, c'est moi. Chaque fois que je donne à l'autre, le sujet, c'est l'autre. Ça veut dire que les parents vis-à-vis des enfants, ils donnent. Alors là, on peut parler d'amour. Mais de celui qui reçoit, ça ne provoque pas l'amour de recevoir. Ça, c'est l'erreur gravissime de tous les gens qui veulent s'attacher les autres en leur donnant. Ils se rendent compte un jour que aucun rapport. Mais pourtant, alors on te doit, mais on t'aime pas. C'est pas parce que je suis d'accord que j'ai reçu que je dois aimer. Ce rapport, d'après la Torah, il est obligatoire d'être sain. Ça veut dire que les parents ne doivent pas faire croire à leurs enfants que si leurs enfants ont des sentiments mitigés vis-à-vis de eux, c'est quelque chose de mauvais. Mais on va aller plus loin encore. Pourquoi est-ce difficile, même pour un père de 80 ans, lorsqu'il voit que son fils a réussi 5 fois plus que lui, de lui dire « tu es bien ». Pourquoi il ne peut pas lui sortir? Il n'arrive pas à sortir ça de sa bouche. N'arrive pas. Vous avez déjà 50 ans, ils souffrent. Pourquoi? Ils n'ont jamais réussi à avoir le moindre compliment de la part de leurs parents. Ça ne sent pas. Pourquoi ça ne sent pas? Parce que la relation qu'un père a avec ses enfants ou une mère avec ses enfants, c'est pas parce qu'ils ne lui ont pas bien. C'est parce qu'il lui a donné. Et le fait que l'enfant soit bien ou pas bien, ça ne fait pas partie du tout des relations. L'enfant, lui, il est inversé, il n'a rien compris. Il croit qu'on lui a donné parce qu'on l'aime. Ah, c'est bizarre, l'autre imam, il ne me dit jamais quelque chose. Ce qui fait que les relations, elles sont totalement perturbées. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas clair dans la relation. Il y a un moment, on a l'occasion de renverser la relation. Lorsque les parents, ils deviennent dépendants des enfants. Ah ben non, c'est chacun son tour. C'est-à-dire que maintenant, tu vas être obligé de recevoir, pas seulement de donner. Et bien, tu vas être obligé de maquiller ton bras à l'autre. La relation va changer. Ah, tu me donnes? Eh bien, t'es un type bien. Mais ça, normalement, on est déjà à la retraite, c'est plus intéressant. Ça veut dire que quoi? Que la clarté des relations, elle est exigée par la Torah. Il y a marqué Kaved, il n'y a pas marqué Vavta. Pas marqué. Pire que ça. Est-ce que d'après la Halakha, je suis obligé, moi, si mes parents me demandent quelque chose et ça me coûte de l'argent, est-ce que je suis obligé de le faire? Évidemment que non. Parce que c'est une mitzvah qui ne doit pas coûter de l'argent. Si ça coûte de l'argent, il y a marqué Michel Ave. Si tes parents te demandent de venir les voir, tu dis paye-moi le ticket métro. C'est comme ça là. S'ils ne payent pas le ticket métro, comment tu fais? fallait à pied. Hein. Donc c'est jamais pas plus gênant. Mais il en reste. Que vis-à-vis de ses enfants, on a l'obligation de donner. Ça veut dire que la relation, une fois je suis notel, je donne. Une fois je suis notel, je reçois. La relation de Hakarat HaTov, on ne doit pas la faire dévier. Ça doit être une relation saine. C'est-à-dire, c'est une relation de dépendance. Pas plus. Pas moi non plus. Mais pas plus. On peut être dépendant de quelqu'un, mais pas l'aimer. Il m'est profondément antipathique, mais il m'aide tout le temps. Eh bien, c'est pas grave. L'un n'a rien à voir avec l'autre. C'est pour ça que le Rambam dit, si quelqu'un tout doucement, il commence à réaliser tout ce que le bon Dieu lui donne, alors sofo la volide avat Hashem. Un jour, il va arriver à la Ahava, à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'amour d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand il faut sacrifier de soi pour lui. Tu voudras rendre un jour. Un jour, celui qui t'a donné, il va te demander. Là, il faudra savoir rendre. C'est ce qu'on appelle Ahavat Hashem. C'est basé sur le principe de Hakarat HaTov. On va revenir à notre problème. Fermons la parenthèse. Pourquoi ça m'est tellement difficile de dire merci mon Dieu tous les matins? Et chaque fois et à chaque instant de me rendre compte que je reçois. Parce que comme le sujet, c'est moi d'en recevoir, c'est difficile de voir l'autre. Il ne fait pas partie de la réflexion. C'est un gros effort de parler de l'autre, de celui qui me donne. Parce que le principal, c'est pas qu'il me donne, c'est que je reçois. C'est que lorsque quelqu'un il s'habitue à donner, qu'il commence à oublier le fait qu'il reçoive et regarder le fait que l'autre donne. Plus on s'habitue et on trouve normal de recevoir, et moins on se rend compte que l'autre donne. Et comme la réflexion, elle est automatiquement dépendante de l'intérêt, parce qu'on a déjà dit souvent que la réflexion, la logique, la possibilité de raisonnement, ce qui l'actionne, c'est l'intérêt. De même que la vue, c'est la fonction de l'œil. Ce qui fait marcher l'œil, c'est le fait que je vois. Ce qui fait marcher ma tête, c'est l'intérêt que j'ai pour la chose. Si quelqu'un m'a payé, ou si j'ai déjà entendu ce que quelqu'un a dit, mon intérêt est ouvert dans ce sens-là, alors qu'il est fermé dans l'autre sens. Donc ma réflexion, elle est déséquilibrée. C'est impossible de s'en sortir. On ne peut pas réfléchir d'une façon saine si on occulte une partie du problème. Et comme tu as entendu quelque chose avant, il a pris une place que l'autre ne pourra jamais prendre. Alors que si tu ne l'as pas entendu devant l'autre, les deux sont venus, et l'un est devant l'autre, l'autre est déjà présent au moment où tu entends le premier. Il ne prendra pas plus de place que le second. Mais si l'autre n'est pas présent, tu ne peux plus juger. Tu as entendu une partie. Et même si tu penses qu'il a tort, tu n'as pas le droit d'écouter la seconde partie non plus. Parce que d'avoir tort, c'est aussi prendre une cause. C'est pas seulement prendre de la place. Donc, l'intérêt est déjà pour là. On a pris la place. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on ne peut pas avoir intérêt en même temps pour plusieurs choses. Et les intérêts divergents, on ne peut pas les avoir en même temps. On peut inspecter à côté et après inspecter de l'autre côté. Mais on n'a pas assez de compartiments dans la tête pour pouvoir être objectif et être intéressé de même manière par deux choses qui viennent à deux époques différentes. C'est impossible. Donc il en reste. C'est pour ça que la Torah dit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On va aller plus loin. À partir du moment où on a dit je suis l'hôtel, je prends quelque chose de quelqu'un, ou j'ai un intérêt pour quelqu'un, maintenant, la place est prise. Mais si c'est quelque chose qui ne me touche pas du tout, la place n'est pas prise. Il y a dans ma tête beaucoup, beaucoup de place pour beaucoup de notions. La place n'est prise que parce que c'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose qui me concerne. Et je peux avoir moins d'intérêt pour une chose qui ne me concerne pas. Mais lorsqu'il s'agit d'une chose qui ne me concerne pas du tout, ça n'a aucune importance, ce que j'examine avant, ce que j'examine après. Au contraire, je veux dire, ce que j'examine avant, je le comprends mieux. Pourquoi? Parce que ça n'occulte rien. C'est-à-dire que le fait d'être un hôtel, d'être quelqu'un qui est le sujet de la photo maintenant, ça occulte une partie du jugement. C'est la raison pour laquelle ça m'est difficile le matin. Et c'est pourquoi que les Chazal nous ont obligés à le dire, que la première chose de dire, c'est moi dernier, enfin, c'est difficile. Parce que je pense d'abord à tous les inconvénients. Donc, alors que les inconvénients, allez-y, d'une Tova, que mot dernier le Fanecha, que tu vas donner la vie. Cette attitude positive vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, elle commence à être possible lorsqu'on est parti de l'autre côté. Si on s'habitue d'être un hôtel, on s'habitue à être quelqu'un qui donne, alors quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous êtes plus sensible, vous avez plus d'intérêt au fait qu'il vous l'ait donné qu'au fait que vous les avez reçus. On va aller pire que ça. Si quelqu'un est habitué à donner et que l'autre lui a donné une toute petite chose insignifiante, il est content comme tout. Mais s'il est habitué à recevoir, alors il va offrir une fleur à ses parents. Oula, ils vont être contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont apprécié le fait qu'on leur ait donné quelque chose. Pas le fait qu'ils aient reçu. Ça les intéresse pas ce que tu donnes. Ils vont acheter des fleurs. Mais... ça manque quoi? Un enfant, tu donnes une fleur. Hein. Ça va, tu fais ça avec une fleur. Tiens, mais j'ai pensé à toi. Ben évidemment, non. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque tu es le sujet, tu n'arrives pas à voir l'autre côté. Donc c'est impossible de le voir. Mais on arrive à un problème. Lorsqu'on appelle Lev, le cœur Libier, c'est que j'ai un intérêt pour la chose. Je suis éveillé. Là, je sais donner, je sais faire. Vient le peuple juif, il dit voilà. On a peut-être des difficultés pour les mitzvot. On ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. Mais les caractéristiques principales du peuple juif, ça reste. C'est écrit dans la Gemara, dans le traité des Yevamot. Shlosha dvarim be'umazu. Il y a trois choses qui sont véhiculées par la culture juive. Baishanim. Le juif, c'est quelqu'un qui a honte. Honte, ça veut dire, il ne regarde pas ses droits. Il fait passer l'autre avant lui. Rachmanim, il a pitié. Ça va lui en coûter. Quelqu'un qui a pitié, il est capable de se mettre en danger pour que l'autre soit sauvé. Alors que s'il avait fait un calcul qui était très logique, il aurait pu dire « Moi, pourquoi est-ce que je dois me mettre en danger pour sortir l'autre du danger ?» Mais il est Rahman. Il pense pas à lui. Gom les chassadim. C'est des gens qui savent aider. Il y a des gens, lorsque vous les sollicitez, pour aider, ils vous disent, dites-moi, que c'est qui m'aide. Ils ont raison. Si je regarde logiquement, c'est vrai que c'est qui l'a vu. Et la maa, t'as besoin de rien. Il n'existe personne qui a besoin de rien. Comment je peux venir chez quelqu'un, je lui dis, aide. Pourquoi tu ne fais pas la démarche, hein? En quoi puis-je t'aider? Non, c'est vrai comme ça. Parce que c'est... Il faut être un baïchan. Le juif, il a une qualité de baïchan. Jamais il devrait dire, hein, et moi que c'est qui m'aide. Mais t'es pas dans la photo, toi. On n'a pas parlé de toi. Pourquoi tu te mets là au milieu? Faut pas rompre. Quand t'es caché, t'es beau. Quand on te regarde, t'es moche. Alors si on lui dit aide, alors il est content. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'autre, on n'en parle pas de lui. Mais il aurait raison de dire à moi que c'est qui m'aide. Sinon c'est la qualité de Baïchan, ça. Il va aider. Et lui, il ne va pas demander que c'est qui m'aide. Ça veut dire que ces qualités-là, Baïchanim, Rahmanim, Igom et Chassanim, c'est quelqu'un qui sait s'effacer du problème. Il n'est pas un hôtel. Il sait s'effacer du problème. Mais on parle pas de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le lev. Libier. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Je vais dire tout de suite pourquoi ce papel attend la fin du Midrash. Là, je suis tout à la fin, mais c'est ça l'explication. Uminayim Sheakadosh Baruch Hu Nikra Liban Shel Israël. Le lev, le cœur du peuple juif, c'est Akadosh Baruch Hu. Sheneema, un verset entier. Tsur le Bavi. Akadosh Baruch Hu, c'est Tsur le Bavi. Tsur, c'est le rocher, le Bavi de mon cœur. Il s'appelle lev Shel Israël. On va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que le bon Dieu, c'est le cœur d'Israël? Normalement, lorsqu'on parle du cœur, chez les Chachamim, on parle de la volonté. Le lève, c'est la volonté. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui marche tout seul. Et on puise dans cette volonté-là pour vivre. Et cette volonté-là, elle est première. Il n'y a personne qui a décidé de faire marcher son cœur. Il y a des gens qui décident de l'arrêter. Mais il n'y a jamais personne au monde qui a décidé de faire marcher son cœur. Il a toujours vécu avec un cœur qui marchait. Ça veut dire que je fonctionne avec une machine qui m'entraîne et à laquelle je me rattache. La volonté, c'est la seule chose qui ne vient pas de l'homme, mais qu'il utilise. Puisqu'un bébé, dès qu'il naît, il veut boire. C'est qui, lui? Il connaît celui qui veut boire? Il utilise cette volonté. C'est ça qu'on dit que la volonté haine la sauf. Elle n'a pas de fin. C'est surtout parce qu'elle n'a pas de début. C'est quelque chose qui est indépendant de moi et à quoi je me raccroche. Lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Liban chez l'Israël, ça veut dire que c'est à ça que je me raccroche d'une façon primordiale. Si je dis tous les matins, je suis content de vivre, j'utilise cette volonté-là, alors à Kadosh Baruch Hu, c'est le lève du peuple juif. Si tous les matins je me lève, je dis, bon, il y a la mare, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela, alors à Kadosh Baruch Hu, c'est pas l'Iban chez Israël. Vous comprenez ? L'Iban chez Israël, c'est-à-dire c'est ce qui les fait vivre. Le peuple juif n'a pas d'autre raison de vivre en tant que peuple juif, si ce n'est qu'à Kadosh Baruch Hu les fait vivre. Il n'y a aucune autre raison. Si vous demandez aux Français pourquoi il vit, il ne va même pas savoir qu'il vit en tant que Français. Mais si déjà il va vous trouver quelque chose, il va vous trouver quelque chose de minable, ou la cuisine, ou la culture. Qu'est-ce qu'il peut vous trouver ? C'est pas ça qui le fait vivre. Mais le peuple juif, il n'a pas d'autre raison de vivre en tant que peuple juif que parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui est l'Iban chez Israël. Je dis parce que je suis né comme ça, moi. C'est une volonté de laquelle je dépends et à laquelle je m'accroche et que je n'ai pas choisi. C'est Kadosh Baruch Hu qui m'a fait juif. Je suis né juif. Kadosh Baruch Hu est l'Iban chez Israël. Nous, on va aller même plus loin. La seule raison qu'on a de maintenir le peuple juif, c'est parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas la nôtre. Parce que nous, on n'était pas là au début de l'histoire. On est déjà né juif. Donc on a toujours quelqu'un qui nous a précédés. Ça veut dire que la caractéristique du peuple juif, c'est quoi? C'est qu'il obéit à une volonté qui n'est pas la sienne. Et qu'il essaie de respecter. Vous comprenez? Tous les autres peuples, il faut qu'ils trouvent une raison de maintenir leur spécificité. Pourquoi t'es ceci? Pourquoi t'es cela? On n'est pas le propriétaire de la décision. C'est quelqu'un qui a décidé pour nous, c'est ça l'Iban chez l'Israël. C'est pour ça que, et on va ouvrir une parenthèse, vous savez que les Juifs font des grossières erreurs toujours. La Torah, elle les met en cause. Il y a une dame qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, voilà, on m'a dit de vous appeler parce que mon mari ne veut pas me donner le guet. Bon. C'est vrai que c'est douloureux à porter, parce que le divorce, ça dure 5 ans. Après 5 ans, on s'est battu un petit papier et on est bloqué pour la vie. Parce que le mari ne veut pas donner le guet. Si le mari ne veut pas donner le guet, il faut passer au mari. Bon. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Il ne peut rien faire. Il ne va pas le tuer, le pauvre. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il y a la séparation de l'Église et de l'État. Le Bédine n'a aucune force. Il ne veut pas donner le guet. C'est quoi le guet? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Mais les rabbins, ils doivent avoir une solution. On ne peut pas me laisser comme ça. On doit avoir une solution. Quand on n'a pas de solution. Mais la Torah, elle avait une solution. Peut-être qu'elle n'a pas de solution. Et puis ça monte, ça monte. Mais alors dans quel système bidon vous êtes? Mais qu'est-ce que... Ça se termine toujours comme ça. Vous défendez quoi? Un truc pareil? Quelle est la seule réponse possible? Elle est méchante, mais c'est la seule réponse possible. Mais moi, j'ai rien à voir dedans. Je suis aussi embêté que vous. Le système, c'est pas moi qui l'ai fait pour me dire qu'il est bidon ou pas. Si vous voulez, je transmets. C'est la seule chose que je peux faire. Et je donne quelle adresse pour la réponse? Moi, je ne suis pas mis en cause parce que le bon Dieu a un projet et qui s'appelait le clan d'Israël. suis pas mis en cause là-dedans. C'est comme si on disait à quelqu'un, mais t'as pas honte de vivre? Eh ben non, j'ai pas honte de vivre. C'est un truc qu'on m'a donné, mais je l'ai pris, pourquoi? On peut pas me remettre en cause, ça. C'est pas moi qui ai fabriqué le truc pour qu'on vienne me dire, c'est toi qui as commencé, ben le commencement était mauvais. C'est ça ce qu'on appelle Kakadosh Baruch Hu, il est Liban chez Israël. Maintenant, tu veux te plaindre chez lui, tout le monde peut se plaindre. Maintenant, on va essayer de comprendre le Midrash. Ani yoshena min ha-mitzvot veli bi'er la'asotam. Même lorsque le peuple juif a des difficultés, puisque c'est difficile de faire une sortie, mais une caractéristique qui est la sienne, de par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce que le peuple juif y véhicule chez les juifs, le fait de Gomel Chassadim. C'est une caractéristique du peuple juif. C'est fondé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir l'idée de remercier le bon Dieu si on ne sait pas remercier quelqu'un et si on ne sait pas donner. Et on a dit, je ne peux pas remercier si je ne sais pas donner. Parce que si je sais donner, je me vois de l'autre côté, tu as vu, il a donné. Alors que si je ne sais pas donner, je vois toujours, j'ai reçu et j'ai reçu alors. C'est ce système qui fait que pour que le peuple juif, il soit le peuple juif, il faut que ça commence par la Gmout Rassadim. C'est la raison pour laquelle Hillel, lorsque quelqu'un venait pour se convertir, il lui a dit, dis-moi la quintessence de la Torah. En une phrase, il m'a dit, qu'est-ce que c'est que la Torah? Il lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. L'autre, il existe. Il faut être un hôtel, il ne faut pas être un hôtel. Ça, c'est la première chose. À partir de ce moment-là, maintenant tu vas réfléchir, qui c'est qui t'a donné la vie? À qui t'es redevable? Et il a eu des raisons? Et quelles sont ses raisons? Et qu'est-ce qu'il te demande? Tout commence à partir de là. Mais si on n'est pas capable de ça, rien. C'est-à-dire que celui qui n'arrive pas à dire le mot des Ani, parce qu'il a trop de problèmes, ou parce qu'il n'apprécie pas ce qu'on lui a donné, il ne pourra jamais arriver à avoir une relation correcte avec Akadosh Baruch Hu. De même qu'un enfant, s'il veut avoir une relation correcte avec ses parents, alors il doit commencer par modéliser. C'est ça la relation vraie. C'est pas j'aime, j'aime pas, il m'aime pas. On te donne, tu dis merci. Tu dois savoir que donner, c'est quelque chose de grand. C'est ça qui est important. Recevoir, ça n'a aucune importance. Il y en a qui a reçu plus, d'autres ont reçu moins. Au même âge, ils ont presque tous reçu la même chose. Ce qu'ils ont donné, ça change. Et donner, on ne parle pas ici simplement donner dans le geste, on parle dans l'attitude. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre bureau, on a deux attitudes. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ou qu'est-ce que je peux lui... Et le fait d'être payé n'empêche pas qu'on peut penser qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Ça n'empêche pas. Ça veut dire que l'économie de marché, ça ne justifie pas le fait que chaque fois qu'on voit quelqu'un, on se demande qu'est-ce qu'on peut tirer. Un jour, quelqu'un est venu, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? J'ai dit, pourquoi? Il dit, je peux vous faire connaître des gens. C'est une saine occupation, mais vous aurez compris. Plus vous connaissez le monde, et mieux vous en sortirez dans la vie. Donc, la vraie occupation, quand on n'est pas occupé, c'est de connaître. Parce que plus on connaît, plus tu tires. Ça veut dire qu'en vérité, c'est le contraire. La saine occupation, c'est de ne pas connaître. Parce que c'est difficile de dire plus je connais, plus je dois donner. Il y a quand même des limites. Donc ça en devrait fonctionner le contraire. C'est un gros effort, chaque fois que quelqu'un rentre chez vous, de dire qu'est-ce que je peux lui donner, qu'est-ce que je peux faire pour lui. Donc on préfère qu'il n'y ait pas trop de monde aujourd'hui. C'est normal. C'est que cette attitude-là, c'est qu'on n'a pas de lève. Le lève, c'est que ça marche autrement. Alors maintenant, on va comprendre. Ani Yeshena Minatz Dakot, Vélibiar La Sotam. Il y a des fois où je n'ai pas le moyen d'aider l'autre. Pourquoi? Parce que ce que je peux lui donner, ce n'est pas ce dont il a besoin. Mais il en reste que j'ai donné. Parce que Libier La Sotam. Parce que je l'ai regardé comme quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour lui et pas le contraire. Donc, il ne faut pas regarder le fait que ce que j'allais proposer, ce n'est pas pour lui. La démarche, elle était la même. Bet Amigdash. Ani Yoshena, je suis Yoshen, Mina Avoda. On ne peut pas faire les corbanotes, on ne peut pas faire le service du Bet Amigdash. C'est bon. Mais on est libo-air pour le chemin et l'armida. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, si c'est libo-air, donc c'est celui qui ne les fait pas. Si c'est celui qui les fait, pourquoi tu dis libo-air? Alors ici, c'est un grand chose qu'il faut savoir. Vous savez que la tfila, c'est quelque chose qui n'est pas innocent. C'est quelque chose qui demande des règles. Par exemple, une façon d'être vêtu, une propreté d'un endroit. Alors que le Limouda Torah, non, il n'y a pas de règles. Quelle est la différence entre les deux? Limouda Torah, on demande seulement Vaya Machanecha Kadosh, il faut se conduire avec la doucha. Mais on ne va pas me demander de m'habiller. Alors que pour prier, il faut s'habiller. Il faut faire comme si on allait rencontrer le personnage le plus important. Parce que dans le Limouda Torah, on est seul. On réfléchit, on se construit, on s'élabore, mais on est seul. Mais quand on prie, il y a deux. Ça veut dire qu'avant, on allait chez Akadosh Baruch Hu Beit Hamikdash. Aujourd'hui, il suffit qu'on dise Hachem se fataï tiftar que bon, il y a pire que ça, le bon dit l'objet est présent. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué en vers, c'était un micro vanyene, odem nabrim vanyeshma. Chaque fois que quelqu'un prie, le monde il écoute. Donc on est deux maintenant. Moi ça m'a toujours surpris, les gens ils disent j'ai pas le temps de prier. C'est vrai qu'il n'a pas le temps de prier. Dans l'emploi du temps, il n'a pas le temps de prier. Mais là on va dire une chose, dis-moi. Je t'ai obtenu un rendez-vous avec celui qui va te faire la meilleure affaire. J'ai pas le temps. Ah écoute, t'as du temps quand même, tu es bête. Ouais, il va trouver du temps. Mais non, c'est pas chez celui-là, chez son patron. Là, il a automatiquement du temps. Pourquoi il a annulé tous les bêtises? Mais non, c'est pas hein, le patron, c'est le ministre. Ben si je trouve du temps, tu sais qui? Le ministre des ministres, le bon Dieu. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas le temps. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'on pense que la prière, c'est pas une affaire à deux. On pense que la prière, c'est tout seul. Mais si on pensait que c'est une affaire à deux, on te dit, tu sais, tu as quelques minutes par jour pour t'adresser au bon Dieu et l'écoute. C'est pas négligé quand même, non? D'abord le rapport, qualité-prix, j'investis quoi? Tu rencontres par le cher ministre, qu'est-ce que tu as donné de tous les côtés? Là, Yachar. Pourquoi on ne raisonne pas comme ça? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. La nature du peuple juif, c'est qu'il croit à ça. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est quelqu'un qui a une relation dont il mesure l'importance avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on pourrait se dire, moi Shanti, tu crois que tu vas m'écouter, tu crois ceci, tu crois cela. Si tu fais comme ça, alors tu n'es pas mamie dans la tefila. Parce que si elle mitzvah de prier, c'est quand même pas juste pour que tu dises un truc et que bon, il rigole à chaque coup. Donc il doit avoir une incidence. Les réponses, on ne connaît pas. C'est vrai, les réponses, on ne connaît pas. Mais pour une raison. C'est parce qu'on n'a pas de nom à mettre sur la boîte aux lettres. Si on avait un nom à mettre sur la boîte aux lettres, alors il y a la réponse automatique. Voilà, est marqué Tzadik Gozer, à Kadosh Baruch Hu Mekayem. Si le Tzadik il ment, le bon Dieu il fait. Pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Il a écouté ce que lui demande. Il écoute ce que moi je demande. Pourquoi lui on lui répond, moi pas? Moi aussi il me répond. Seulement il n'a pas trouvé l'adresse. Vous comprenez? Il n'a pas trouvé l'adresse. C'est que la réponse, elle n'est pas adaptée à moi. Moi, il me faut une autre réponse. Il n'y a pas d'adresse. Il a envoyé la lettre, il n'y a pas d'adresse. Mais la réponse, elle est envoyée. Oui ou non, elle a envoyé la réponse. Ça veut dire que lorsque le Klal Israël a des impossibilités comme le Beit Hamikdash, ça n'empêche pas que de sa nature, au fond, il n'est pas privé. Parce qu'un ersatz. Vous comprenez? Le Beit Hamikdash, c'est l'endroit où on étudie la Torah, Sanhedrin. Le Kriyat Shema, si quelqu'un étudie, il dit le Kriyat Shema tous les jours, au moins, il a été yotzé de la Mitzvah de Talmud Torah. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup, beaucoup, mais c'est le minimum, c'est déjà quelque chose. C'est pour ça qu'à la fin, Mirachi dit « Ani yeshena mina geula »« Je suis endormi de la geula » C'est-à-dire quoi? C'est une chose dont je n'ai pas les moyens. Je ne participe pas. « Avala kadosh baruch hu er le bon et nous » Mais là, le bon Dieu est réveillé. Je me dis « Mais qu'est-ce que ça peut me faire si c'est le bon Dieu qui est réveillé ?»« Ve'echa matzino »« Ka kadosh baruch hu il est liban chez l'Israël » C'est comme si c'était moi qui étais R, c'est moi qui ai réveillé pour ça. Ça veut dire que le peuple juif ne connaît pas la date de la Goula. Il ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, quelquefois, il peut avoir marre d'attendre. Alors, il ne sait plus comment attendre. Mais il en reste qu'au fond, il est R le Golem, parce que ce n'est pas son projet. Donc, il est soumis à ce projet-là. En étant soumis à ce projet-là, il est R à la Goula, il n'est pas satisfait de la situation qu'il vit. Il est R, il est réveillé à la Goula. Ah, quand, comment, tout ça, il est chez là. Je ne sais pas, tu me demandes, si je participe au truc, moi je dors. Mais il est R. Mais vous pouvez comprendre que la Gemara dans le traité de Shabbat, une des premières choses qu'on demande à l'homme lorsqu'on le juge, c'est Tzipita Lishua. Est-ce que tu as attendu? On te demande pas est-ce que tu savais la date, est-ce que tu sais comment on fait, est-ce que tu... On te demande est-ce qu'il te manquait quelque chose. Dans le peuple juif, il y a une dimension qu'il manque quelque chose dans ce monde. On n'est pas satisfait. C'est obligatoire que c'est une préparation pour autre chose. Sinon, ça n'a pas de sens. Si il n'y a rien derrière, ça n'a pas de sens. Alors, quel est le fou qui, au fond, ne veut pas savoir? Alors, comment et quoi? Il n'arrive pas. C'est long, c'est proche, il ne sait pas. C'est vrai. Mais au fond, il est R le bonheur. Ça veut dire que ça n'empêche pas que sa caractéristique, elle est là, bien qu'elle peut pas, elle ne puisse pas s'exprimer. Donc voilà déjà la première partie du verset. Ani yeshena velibi er. Moi je dors. C'est-à-dire il y a des choses que je ne fais pas convenablement, c'est vrai. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Mais libi er, la caractéristique du peuple juif au fond, elle est toujours là. Kol, écoutez. Dodi, dofek, pitri. Si tu as le cœur qui est er, alors tu peux écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin d'être réveillé. Il y a besoin de cette caractéristique-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient du lève. Qu'est-ce qui te dit devant Dieu? Pitrili, ouvre-moi. De là, la célèbre Gemara dans Midrash, partout c'est marqué, Amar HaKadosh Baruch Hu, Pitrouni que Pitro Shel Machat, Veftach Lachem que Pitro Shel Olam. Ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai comme les portes d'un palais. Ça veut dire que c'est le bon Dieu qui commence, puisque Kol écoute ce qu'il te dit. C'est lui qui commence. Mais toi, en réaction, tu dois ouvrir un petit peu, alors il ouvre beaucoup. On a déjà parlé de ça à propos du verset Achivenu Hashem Elecha Ben Hashuva. Le processus qui fait qu'un homme s'élève, il vient d'Akadosh Baruch Hu, il ne commence pas par l'homme. Kol Dodi Dofek. Il y a quelque chose en lui qui le prédispose à une relation avec Akadosh Baruch Hu. Pour que cette relation soit de qualité, l'homme est petit. Il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu l'aide. Mais s'il ouvre un petit peu, s'il lui fait un petit effort, alors ce qu'il va récolter n'a aucun rapport avec l'effort qu'il a fait. On va essayer d'expliquer ça. Moi, je pourrais dire non, j'ai fait un effort, mais je reçois sans mes efforts. Pourquoi on doit toujours faire que moi, je suis le petit, je fais petit, et le bon Dieu dans le grand. Il dit qu'il donne proportionnel. C'est normal. Vous comprenez? Je me fais toujours voir, là. Je dis pourquoi. Entre deux hommes, celui qui donne et celui qui prend, il peut y avoir une mesure. On peut arriver à un équilibre. C'est-à-dire, je n'ai pas de hakarat hatov, je n'ai pas de sensation de devoir, parce que j'en fais autant que lui. Il y a un équilibre. Je m'efforce, lorsque quelqu'un m'a fait une tova, de lui rendre l'appareil. Pourquoi? Pour ne pas rester dans cette sensation de... Il manque quelque chose. Ok, moi aussi je suis à l'hôtel. Mais vis-à-vis du bon Dieu, quel rapport ça peut être? Et je vous dis pourquoi. Le bon Dieu nous donne la vie à chaque instant. Mais si moi je lui rendais la vie à chaque instant, on le fait une fois, mon Dieu. On ne peut pas le faire deux. Rendre chaque instant, pour l'homme, c'est définitif. Vous comprenez? Quelqu'un a donné sa vie pour un cadeau de Baruch Hu. D'accord? Il a rendu un instant. Et les autres? Et tu as vu la longueur de la vie? Comment tu peux rendre ça? Vous comprenez? Moi, je peux donner ma vie pour l'autre si lui, il m'a donné la vie. Mais s'il me donne la vie tous les jours, il me donne la vie à chaque instant, le fait de lui rendre une fois, tu as vu un peu la disproportion. Ça veut dire que je ne peux jamais être yotze, je ne peux jamais avoir de rapport d'égalité avec le bon Dieu. C'est impossible. Je serai toujours, par rapport à lui, dans un rapport de l'hôtel, je crois. Quoi que je fasse, c'est impossible. Tu t'illusionnes si tu crois que l'effort que tu fais, il a un rapport avec sa case Baruch Hu dedans. Ça n'a aucun rapport, c'est même pas la peine d'essayer. Tout ce que tu pourras donner, ça ne vaudra pas ce que tu as fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Ça aurait pu être du donnant-donnant. Parce qu'un homme n'est pas originel, donc il a besoin de nourriture. On a déjà dit que même dans le monde futur, on a besoin de nourriture. C'est nourriture spirituelle, ça s'appelle Néné Mizi Vashriva. On jouit de la présence divine, c'est notre nourriture. Mais on est toujours dépendant du bon Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est le tout. Et moi, je ne suis pas le tout, donc je suis toujours dépendant. Cette dépendance fait qu'il ne pourra jamais avoir équilibrage. C'est impossible. Même si nous, on donnait tout, on n'aurait pas de rapport encore avec quelqu'un d'autre. Le seul rapport qu'on peut avoir, c'est parce que ce qu'on fait le petit, lui, il le met en grand, et c'est lui qui organise le rapport. On va aller plus loin. Il y a une phrase qui s'appelle Nishmat Kol Chai. Si Si vous regardez la traduction de cette prière, vous verrez. Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? En anachnu yecholim leodot. On ne peut pas remercier. Parce que remercier, ça voudrait dire que lorsque j'ai dit quelque chose, ça a un rapport avec ce que j'ai. Par exemple, quelqu'un vous donne un gros cadeau, allons dire merci, merci, encore un bisou. Un petit cadeau, merci monsieur. On a un rapport entre les remerciements et ce qu'on a reçu. Mais avec le monde, comment tu vas faire? Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Je ne peux pas, moi, justifier chaque instant par ce que je vais faire. C'est impossible. J'ai toujours besoin de me nourrir de lui. Je suis toujours dépendant. Parce que je suis un homme. Si je n'étais pas dépendant, je serais Dieu. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas occulter. Ce qu'on peut faire, c'est fixer un barème. Tu fais tant et tant. On considère que tu as fait tant et tant. Et c'est comme ça que l'homme s'en sort de Chavod dans l'Olam Haba. Je ne suis pas n'importe qui, j'ai bossé pour ça. Donc je ne suis pas celui qui tend la main. Ok. Mais de croire qu'il y a un rapport entre les deux, c'est une bêtise. En anachno yicholim lodot. Ilu finu malin shira kayam. Si notre bouche elle était pleine de louanges, kayam kol amer. Veadenu perusot, kenishre shamayim. Veraglenu kayalot. En anachno maspik. Tu peux regarder toute la nature, tu ne trouves rien dans toute sa grandeur, dans tout son infini, qui a encore un rapport avec le monde. Ce qui fait que je dois toujours penser que tous les efforts que je fais, c'est ce qui déclenche ce que Akadosh Baruch Hu donne. Mais ça n'a pas de rapport avec ce que je vis et ce que je reçois. Aucun rapport. C'est impossible, parce que ça voudrait dire que je n'ai plus besoin de me nourrir de lui. C'est-à-dire que l'indépendance totale, elle n'existe pas pour l'homme. C'est une indépendance relationnelle. Mais ce n'est pas une indépendance qui est équilibrée. Relationnellement, ça peut passer. C'est-à-dire qu'un homme, il pourra aller dans le lavabo sans quémander. J'ai travaillé, j'ai droit à quelque chose. Mais de rapport entre ça, non. Et vous verrez que toujours on voit que tout ce qui concerne la dépendance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, comme dans la nourriture, comme dans tout, il n'y a jamais de relation avec les efforts que je fais et ce que je reçois. Hein? On a trois rapports de dépendance avec le monde de Rabotai. C'est lesquels? Slagma Adangiti. Bané. Les enfants. Chayé. La vie. Mezoné. La nourriture. Tu dépends de mon Dieu. L'obis srout est allié et la bonne mazal est allié. Ça dépend pas du srout, ça dépend de ce que mon Dieu te donne. Pourquoi? Parce que pour les enfants, il y a trois associés. Et même que le docteur Éprouvette n'est pas là, il peut dire ce qu'il veut. Il y a trois associés. Il y en a, il s'efforce, et puis le troisième, il n'est pas là. Il ne vient jamais. Il y en a le contraire, ils aimeraient bien qu'ils ne soient pas là, et puis bon, il est venu. Qu'ils sont mazal. On est dépendant. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Chayé, la longueur de la vie. Combien qu'on va imaginer, le monde est toujours à la parade. Maisonné, il ne faut pas que l'homme croie qu'il y a un rapport entre ce que lui, il entreprend et ce qu'il récolte. Parce qu'il y a tellement de vent, de pluie et de machin, de trucs, vous êtes à la merci de l'anticyclone à chaque instant. L'anticyclone, on peut le prévoir, mais on ne sait toujours pas le faire marcher. C'est-à-dire qu'on est dépendant. C'est les trois choses où on n'aura jamais d'indépendance. Pourquoi? Parce que on n'est pas créateur. Si on était créateur, mais on n'est que transformateur, je ne sais pas créer moi. Si je savais créer, je n'aurais pas besoin d'aller du monde pour récolter. Je crée et selon ce que je crée, je récolte. Et moi, je sais qu'utiliser la terre, utiliser la graine, utiliser ceci, utiliser le business, utiliser l'autre, utiliser le client, utiliser... C'est tout ce que je sais faire. Mais qu'est-ce qui va dire au client de venir chez moi plus que là? Qu'est-ce qui va dire à l'autre d'avoir accroché dans le business plutôt que là? Autant que tu vas faire d'études, l'incertitude est tellement grande, tu es obligé de dire que tu n'es pas le créateur de l'affaire. Toi. Tu es un participant. La vie, c'est la même chose. Vous savez, on a... Aujourd'hui, on essaye de faire mourir les gens en bonne santé. Mais alors, est-ce que Chaye, on dépendra toujours du bon Dieu. Ça veut dire que ce qu'on appelle en hébreu des maftechot, les maftechot, les clés, on ne peut pas les posséder. On peut étudier les systèmes, on peut s'arranger mieux dans le système, moins bien dans le système, on ne sait pas. Mais de toute façon, la clé, on ne la possède pas. Puisqu'on ne possède pas cette clé-là, donc tu es obligé d'être dépendant. Si tu es dépendant, c'est qu'il n'y a aucun rapport avec ce que tu as fait, ce que tu reçois. Les gens qui travaillent beaucoup ne reçoivent rien, les gens qui travaillent plus ne reçoivent beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a une illusion commune que celui qui est riche est intelligent. Et pourtant, malheureusement, dans la plupart des cas, j'ai vu que c'était pas du tout ça, c'est peut-être même le rapport inverse. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a dit « Lola Chachamim Lechem ». Les Chachamim n'ont jamais de pain. Pourquoi? Parce qu'ils voient tellement de possibilités que ça marche pas, hein, qu'ils se lancent pas. Lola Chachamim Lechem. Faut être un peu bête pour quelque part. Donc, le rapport entre l'investissement et ce qu'on récolte, on est obligé de croire qu'il n'y a pas de rapport. Ça, ce sont donc ces trois choses-là. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Kol dodidofek pitri leachoti rayati yonati tamati, ça on a déjà expliqué plusieurs fois. Sheroshi nimlatal, que vutsosai recite laïla. Qu'est-ce que ça veut dire Sheroshi nimlatal? Alors je vais vous dire ce que Rashi dit. Rashi dit, le Shon Adam Sheba Balayla. On compare à un homme qui vient d'Ofek al-Petar Aouvato et il frappe à la porte de celle qu'il aime. Omer, Bishwil Chibatra Abati Balayla. C'est à cause de ça que je suis venu, de Etatal au Hageshem. Je suis venu la nuit. C'est pas le moment le plus propice, mais j'ai fait un effort. Que vous tsotai, si c'est là, il a, ça veut dire que le bon Dieu, dans la galoute, il en prend un coup aussi. La Emouna, c'est le rapport avec la nuit, et pas avec le jour. Le rapport qui existe entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire, il est plus fait de galoute que du contraire. Parce que Roshinim Latal, que votre sotaï Roshi Selaïla. Ça veut dire que si on vient du côté du bon Dieu, il a plus perdu des plumes en nous soutenant dans la galoute. Qu'est-ce que ça veut dire perdu des plumes? C'est que la galoute au fond, c'est un Khilul Hashem. C'est le contraire de la création. La création, c'est le Giloui de la présence, c'est la révélation de la présence d'Akadosh Baruch Hu. La galoute, c'est la négation de la présence divine. Attention, plus elle dure, alors dans le fait de la durée, c'est de nouveau une révélation de la présence divine. Comprenez pourquoi ça doit durer? Parce qu'il faut un équilibre. C'est ce qu'on appelle Shrinta de Galuta. Akadosh Baruch Hu est aussi dans la galoute. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est attaché à l'homme d'une certaine façon. Parce qu'il s'est investi dans le projet. Je suis investi dans le projet. Il y a l'associé qui... Je ne perdais plus. La galoute, c'est le fait qu'on ne discerne pas la présence divine. C'est le contraire de la création du monde. La création du monde, c'est le fait que l'homme puisse pouvoir discerner. La galoute, c'est le contraire. Roshi Nimlatal. Qui doit Kadosh Baruch Hu nous le reproche. Il dit, regarde ce que tu as fait de moi, que je suis obligé de venir la nuit par le brouillard et la rosée, je suis obligé de me mouiller. En France, on dit, on a obligé Kadosh Baruch Hu à se mouiller aussi dans cette aventure-là. Si l'homme avait été parfait, Kadosh Baruch Hu ne serait pas mouillé. Maintenant, il s'est mouillé. Ça veut dire qu'il faut comprendre que lorsqu'il y a marqué Kol Nudofek Pitrini, Le bon Dieu se mouille, puisqu'il ne devrait pas être obligé de me le dire. Comprenez? Il ne devrait pas être obligé de venir chez moi et me dire, allez, il faut se secouer. Mais il le fait. Si les choses avaient été parfaites, l'homme aurait senti la présence divine. Il serait levé à Midas tous les jours. Il aurait vu comment Akadosh Baruch Hu a conduit le peuple à partir de la sortie d'Égypte jusqu'à la fin du premier temple. C'est toujours des Nissim, vous prenez le Tanakh, des Nissim, des Nissim, des Nissim, des Nissim. C'est pas ça qui s'appelle Shiroshinim Latal que vous tsotai recissez là. On parle de la nuit, on parle de l'aïmouna. Tu es obligé de croire en Dieu, tu ne vois pas. Maintenant, c'est plus l'heure où on te montre, c'est là où toi tu dois croire. Pour que maintenir l'homme dans l'étroit de croyant, alors il faut un appel. Et à cet appel, l'homme doit être sensible. C'est pour ça qu'il y a marqué « Kol ». Ici, ce n'est pas la voix de Dodi. C'est « Kol », la voix d'Odi Dofek. De mon ami qui frappe. Ça ne veut pas dire la voix, le bruit. La voix « Écoute ». « Écoute », tu l'entends frapper. Ça, c'est la vraie traduction. « Kol Dodi Dofek ». Parce que sinon, les gens me demandent toujours, t'as déjà entendu une voix qui frappe à la porte hein? La main, elle peut frapper à la porte, le doigt, il peut frapper, le marteau, il va frapper. Mais la voix qui frappe, col veut dire la voix et veut dire aussi écoute, col. On se tait, on écoute. Dodi Dofek Pitrini. Akadosh Baruch Hu frappe Pitrini. Ça, c'est à toi. C'est pour ça qu'on avait dit, Ani Yeshena Velibière. Tant que Libière, je peux écouter cette voix-là. Chez Roshinim Lata, que vous tsotai, recissez Laïla. Tal, c'est le début du matin. Lorsque la nuit elle n'est pas profonde. Ça veut dire qu'on aurait pu vivre hein, avec la Goula en rasbot. Si le Machir était venu après le second Beth Amidash, alors c'était Tal. Bon, le monde il s'est mouillé un petit peu, mais la rose du matin, c'est pas mal. Et malheureusement, chez Roshinim Latal, avant Yakvut Sotay aussi c'est Laïla. Ça veut dire qu'il a mouillé entièrement les cheveux, parce que c'est la nuit noire. Là, il y a du brouillard. C'est ça aussi c'est Laïla. Ça veut dire que de même que la galoute, elle coûte au clan Israël, elle coûte à Akadosh Baruch Hu de la même façon. Et si quelqu'un a l'habitude d'être notel et pas notel, lorsqu'il se plaint de la galoute, il ne se plaint pas de ses malheurs à lui dans la galoute, il se plaint du Khidoul Hashem de la galoute. C'est-à-dire que ses malheurs n'ont d'une importance que parce qu'ils entraînent qu'il y a un Khidoul Hashem. Mais sinon, c'est pas grave. À l'échelle de l'histoire, on arrangera ton problème. Vous comprenez? L'importance, c'est Shrin Tabu Galuta. C'est ça qu'on a dit au nom du Baal Shem Tov une fois. Je suis obligé de m'adresser au bon Dieu. Pourquoi je suis obligé de prier? Il ne sait pas ce dont j'ai besoin. Il suffit que je veuille quelque chose, il sait. Pas besoin de passer par la prière. Il dit si. Parce que la prière, de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que je demande mes besoins. En demandant tes besoins, tu deviens choutaf avec le tsar, associé au tsar de la Shrina. Tu te rends compte que si toi tu as des besoins, imagine quels sont les besoins d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde et lesquels il est privé par la galoute, par la faute de l'homme. Ça veut donc dire qu'on est associé. Chaque fois que je fais quelque chose, je dois me demander, j'entraîne la galoute, le Khidoul Hashem, ou j'entraîne le Khidoul Hashem. Oui, allez-y.
Je ne sais pas compris encore. Le col veut dire qu'on écoute.
Col, ça veut dire écouter.
Et donc la Mouna, déjà, elle est moins là, puisqu'on est devant une écoute.
Non, c'est ça la Mouna, c'est de pouvoir écouter. C'est ça la Mouna.
La Mouna, c'est la
Mouna. La Mouna, c'est les choses que je ne vois pas si je ne fais pas attention.
C'est pour ça que la Mouna coupe la Mouna. Le fait de pouvoir écouter, c'est.
C'est parce que Libière, c'est ce qui est marqué, Libière, le fait que, bien qu'il y ait des choses que je ne fasse pas, mais au fond, il me reste ces caractéristiques du peuple juif. alors je suis capable d'écouter ce son-là. Ouais. C'est pas gênant, moi je suis pas responsable. Alors, je vais vous dire exactement. Discerner deux problèmes. Un qui est le problème du libre arbitre. À partir du moment où je dis que l'homme est libre, chaque action qui va dans le sens de négatif, elle est provoquée par l'homme. Et chaque action qui va dans le sens du positif ne peut être que provoquée par l'homme. Sinon, je pense que l'homme n'est pas libre. Le Rambam, c'est une des premières choses qu'il dit. La émouna du peuple juif et toute la Torah est basée sur le fait que l'homme est libre. Ça veut dire, il y a du bien, c'est ton fait. Il y a du mal, c'est ton fait. Ne viens pas chercher le monde derrière. Sinon, ça voudrait dire que le monde, il aurait créé des hommes, des espèces de zombies, il les manipule comme il veut, et il n'y a pas de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de responsabilité. Si la Torah, elle pose la responsabilité, ce qu'elle a été obligée de poser le libre arbitre. Donc ça, c'est une donnée desquelles je ne peux pas revenir parce que je pose que c'est la condition de la création. Maintenant, il y a une deuxième chose. Libre arbitre jusqu'où? Par exemple, on a déjà dit nous souvent, moi, si on m'avait demandé de créer le monde, j'aurais pas imaginé qu'un fou en appuyant sur un bouton, il peut détruire le monde entier. Non. Tu sais ce que tu peux détruire? Tes voisins. Allez, on va aller. Ta famille. Comme Caïn et Evel, une personne, mais pas le monde entier. Pourquoi une telle liberté à l'homme? Pire que ça, une telle liberté que le bon Dieu est obligé de stopper, voir le déluge, voir la tour de Babel. Alors je vous dirai, cette question-là, la seule réponse que j'ai, c'est une question. C'est que si moi j'avais créé le monde, je n'aurais pas fait comme le bon Dieu. On est d'accord? Mais comme je ne sais pas vraiment pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, ça m'est très difficile d'exprimer une opinion en disant que je n'aurais pas fait comme ça. Mais il reste que j'ai une question, et qu'elle est valable. Que si un jour je le vois, je lui demanderai, pourquoi Aval donner une liberté pratiquement entière à l'homme? On va dire pire que ça. Pourquoi est-ce que le bon Dieu s'est donné à un maître? Tu crées un monde et tu permets à l'homme de le détruire. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Moi j'aurais dit, je reste le maître. À toi tu es un petit maître. C'est ça que l'Agmara a dit dans le traité de Sanhédrin que Caïn, il savait qu'on pouvait blesser, mais il ne savait même pas qu'on pouvait tuer. Il a essayé jusqu'à ce qu'il arrive à tuer Aval. Mais il ne savait pas. Ça veut dire que quoi? C'est pas automatique la notion de liberté totale et absolue et définitive pour l'homme. Mais à partir du moment où on la pose, et on dit que ça a été créé de telle façon que c'est comme ça que ça marche, tu es pire que ça. Chaque liberté poussée à l'extrême devient une privation et une limite de la liberté de l'autre. Alors on va dire, pourquoi 6 millions qui n'ont pas de liberté et un fou avec liberté? C'est quand même. Il aurait mieux fallu faire 6 millions avec liberté et un sans. Pas le contraire. Puisqu'en disant que l'homme est libre, il est aussi libre de tuer l'autre. Aussi libre de l'enfermer. Donc l'autre ne devient plus libre. Pourquoi la liberté de l'un, elle agit automatiquement sur l'autre? Moi, tu ne dois pas donner de pouvoir sur les autres, tu n'as qu'à avoir pouvoir sur toi-même. Mais en quoi tu es obligé que la liberté de l'homme ait une résonance automatique sur la liberté de l'autre? On va dire plus que ça, donc sur la liberté de Dieu aussi. Parce que si à chaque instant il dit non, on arrête, c'est exagéré, alors je suis plus libre non plus. Donc la liberté de l'homme soumet la liberté de l'autre et la liberté de Dieu. Et moi je dis, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Qui dit que c'est comme ça qu'il fallait faire? Mais je ne peux pas aller plus loin avec la question, parce que si je prouve de ça quelque chose, ça veut dire que je suis au stade de juger, et j'ai jugé toute l'histoire en disant, non mais ça ne valait pas la peine. Vous comprenez? Alors qu'à la fin de l'histoire, il est lieu de penser qu'avec tout ce qui a été de la faute de l'homme, elle aura quand même valu la peine. Vous comprenez? Parce que quand on dit la galoute, c'est la faute de l'homme, c'est vrai. Mais que l'homme vive dans la galoute, ça c'est déjà son sroute, c'est plus de sa faute. Je suis malade, c'est de ma faute. Mais que je vive avec la maladie, c'est déjà mon sroute. Ça veut dire que, attention, à partir du moment où il y a des règles, il y a toujours presque autant de sroute que de faute. Sinon, le truc ne marcherait pas. Imaginez que le peuple juif, il dit, non seulement il fait une faute, mais il dit, je veux pas de la galoute. Ah, il est fichu. Donc il a quand même accepté la galoute. Peut-être ça compte comme une mitzvah. Peut-être le tsar aussi, comme ça c'est marqué dans le Midrash, que lorsqu'on pèsera les avérotes et les mitzvot des gens, on pèse tous les tsarotes et elles vont du côté des mitzvot. Le Midrash, il a condition qu'il était mekabel. Pas qu'il ait pesté toute la journée, qu'il n'en ait pas voulu. Qu'il était mekabel. Ça veut dire que je peux aussi m'adapter à une autre forme de vie. Je reste libre avec une forme restreinte. Mais le peuple juif peut dire, non, moi cette liberté de la galoute, elle m'intéresse pas. C'est quoi une liberté de mettre fini ou non? Dès que je sors bonbon? Non, je suis pas d'accord. Le fait d'avoir accepté ça, ça aussi c'est mitzvah. Donc je ne sais pas moi le chiva chemin que j'ai comment ça se dit. Du fait que je ne sais pas, je peux même plus reprocher maintenant au bon Dieu d'avoir donné tellement de liberté à l'homme, parce que je suis incapable de savoir si c'est pas possible. Donc je suis obligé de dire, j'ai une question. Si moi on m'avait dit de faire le monde, jamais il n'y aurait un Hitler, c'est garanti. J'aurais pas permis qu'il y ait un suicide. J'aurais pas permis qu'on doit se mettre le monde entier, occidental et même les autres d'ailleurs, sont obligés de se mettre au pied d'un type juste pour qu'il ne veuille pas tuer des innocents avec des missiles. C'est quand même dingue. On voit les bonbons sur la tête taille, on peut. Ah non, c'est pourquoi? Parce qu'avant, hein, il aura tué des. C'est pas possible. Ouais, c'est pas normal, c'est pas légitime, c'est vrai. Mais comme tu connais pas le bout de l'affaire, c'est difficile de juger que la façon dont toi tu penses faire le monde, elle aurait été meilleure. Donc on est obligé de poser qu'il y a une liberté pratiquement absolue pour l'homme, et que la liberté de l'un, elle met en danger la liberté de l'autre, puisqu'il n'y a pas de restriction de liberté, et que c'est comme ça que le monde doit fonctionner.
Est-ce que ça n'a pas une autre question qui est quelle est la valeur de la vie d'un homme pour un chef? Est-ce qu'il n'aurait pas pu intervenir pour le faire?
C'est ce que je vous dis, vous avez fait la réponse. Mais si, parce que vous avez dit que vous, Hachem remet en question la valeur de l'homme puisqu'il n'a pas intervenu. Peut-être il n'est pas intervenu pour une autre raison. Moi je ne sais pas pourquoi il n'est pas intervenu. Vous savez pourquoi il n'est pas intervenu? Parce qu'il a laissé l'homme libre. Il n'intervient pas quand je frappe mon copain. Pourquoi il n'intervient pas? Il n'a pas de valeur mon copain? Ah non, un copain c'est pas grave, mais sinon c'est grave. Je ne sais pas moi, je ne sais pas juger. C'est une réponse que de dire que c'est la non-valeur ou le peu de valeur qui a fait que le bon Dieu s'en est pas. Vous comprenez? C'est comme celui qui me dit, voilà, si le bon Dieu, ça lui a rien fait, si on de mort, ça ne fera pas grand-chose que je mange la charcuterie comme ça ou comme ça. T'as raison, mais t'as fait la réponse. Moi, je suis au stade de la question. Qui me dit que la raison pour laquelle il n'est pas intervenu, c'est parce que ça lui fait rien? Peut-être c'est un respect de la liberté de l'homme. Ah là, je mets en cause, je dirais, il faut pas. Attention, il n'intervient pas dans notre liberté. Il intervient dans nos propositions de choix. Mais il n'intervient pas dans ma liberté. Parce que chaque fois je dis de toute façon, c'est pas peine que je fasse, il va résoudre le problème avant. Je suis pas libre. Donc tu dois te mesurer à cette liberté. Si le président des États-Unis, il appuiera jamais son bouton, parce que de toute façon, HM interviendra avant. Bon ben enlève les boutons, enlève tout. Donc tu penses vraiment que tu peux le faire. Ah, j'ai dit, mais pourquoi il t'a donné ta liberté? Personne n'est capable de répondre. Mais celui qui répond en disant, tu sais, il a donné liberté à lui, parce qu'il est...